Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui dans le viseur, simplement pour signaler que c'est le début d'une série de trois viseurs qui sont consacrés à l'armée de l'air et à l'univers de l'aviation de chasse avec le colonel David de l'armée de l'air et de l'espace qui est venu nous raconter trois souvenirs différents, trois souvenirs de première fois d'une carrière de pilote de chasse qui sont autant de portes d'entrée dans ce monde très particulier de la chasse qu'on n'a quasiment pas abordé jusque-là dans les viseurs. Alors, je ne vais pas les diffuser non plus d'affilée ni coup sur coup, ça va s'espacer un peu dans les semaines et les mois qui viennent, mais tout ça pour vous dire de ne pas vous étonner de retrouver ponctuellement le même narrateur, qui est ce colonel David, que j'ai anonymisé un peu par réflexe sur le moment, c'est l'habitude, parce que c'est une des conditions des partenariats avec les institutions avec qui on fait régulièrement les viseurs. Mais honnêtement, le colonel David n'est pas très difficile à identifier, et je sais que ça lui pose pas de problème, notamment pour ceux qui connaissent un peu l'univers défense sur Twitter, et aussi pour les auditeurs fidèles du podcast d'ailleurs, puisqu'il est déjà passé dans un collimateur du mardi. Et je profite d'ailleurs de ce préambule pour le remercier encore, puisque vous allez voir, mais il nous fait vraiment pénétrer à peu près autant qu'il est possible dans l'intérieur du cockpit d'un avion de chasse. Certaines histoires seront sur Mirage et d'autres sur Rafale, ce qui me permet de poser des questions d'ailleurs vraiment très bêtes, encore plus que d'habitude peut-être. Déjà parce que je ne connais pas particulièrement cet univers-là à la base, au-delà de ce qu'on peut trouver dans Top Gun ou dans Les Chevaliers du Ciel, mais aussi parce que c'est vraiment pas fréquent d'avoir accès à cet espace-là, à cet univers-là, et de pouvoir demander tout ce qui vous passe par la tête, et d'obtenir en retour des réponses précises et détaillées. Donc premier épisode de la série avec le colonel David, consacré aux premières fois d'un pilote de chasse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc épisode récit d'opération, en tout cas de vie militaire, j'ai le plaisir de recevoir le colonel David, donc bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors vous êtes colonel dans l'armée de l'air, ancien pilote de chasse, et alors on va commencer aujourd'hui une série, alors ce sera trois épisodes, mais qui sont consacrés aux premières fois, en tout cas certaines de vos premières fois, et aujourd'hui il va s'agir de raconter, je crois, votre première OPEX, donc votre première opération extérieure. Alors, c'était où et quand cette première opération extérieure, la première fois que vous avez été déployé à l'étranger?
Alors j'étais déployé pour la première fois à la fin de l'année 2006. À l'époque, j'étais sur Mirage F1 CR, à l'escadron de reconnaissance de 33 Savoie. Donc l'encre était à peine sèche sur mon brevet de pilote opérationnel.
Vous aviez quel âge?
J'avais 26 ans. Donc pour la première fois, première opération, pour la première fois, j'allais enfin servir à quelque chose dans l'armée de l'air. J'étais rentré en 2000 au sein de la promotion Capitaine Aubert à l'école de l'air. Et 6 ans après une formation à la fois militaire, académique, d'ingénieur et de pilote, j'arrive en opération.
Mais alors, c'est bête, enfin j'en sais rien, mais je sais qu'on compte beaucoup en heures de vol pour les pilotes, enfin les pilotes en général, les pilotes de chasse aussi. Je sais pas, à la fin de votre scolarité, comme là, vous aviez combien d'heures de vol?
Alors avec mon brevet de pilote opérationnel, je devais avoir quelque chose comme 300 heures. 300 heures de Mirage F1 à peu près, et puis au total on va dire 600 ou 700 heures, tout avion confondu, que ça soit du planeur, de l'Epsilon, de l'Alpha Jet, l'avion sur lequel évolue la patrouille de France. Donc j'arrive avec cette expérience.
Et 300 heures, enfin, ça, vous savez que vous commencez à savoir ce que vous faites sur Mirage F1. Quoi.
Alors mais effectivement,
vous savez où se trouvent les commandes. Quoi.
Alors on sait où se trouvent les commandes, on maîtrise son vecteur et son système d'armes.
Et le Mirage F1, pilote opérationnel. Le Mirage F1, peut-être qu'on peut rappeler, c'est quel. Donc on sait qu'il y a plein de types de Mirage, Mirage 1000, Mirage 1000D, etc. Il sert à quoi le Mirage F1?
Alors le Mirage F1, il est d'une génération antérieure à celle du Rafale, l'avion que j'ai eu la chance de piloter derrière. Et à l'époque, on n'avait pas d'avion polyvalent, donc l'avion était spécialisé pour la mission de reconnaissance. Donc il était équipé de capteurs argentiques, intégrés à l'avion.
Des appareils photo, quoi.
Effectivement, des appareils photo avec différentes focales qui permettaient de varier les profils de vol et ramener du renseignement. Il faisait également des missions...
C'est l'équivalent d'aujourd'hui ce qu'on fait avec des drones, quoi.
Alors pas tout à fait, puisque sur un drone type MAL, Reaper, que vous voyez sur les théâtres d'opération, donc lui il assure une permanence, mais il voit le monde à travers une paille, c'est-à-dire ses capteurs sont relativement champ étroit. Tandis que la reconnaissance aéroportée, que ce soit sur Mirage F1CR ou après sur Rafale, va avoir des capteurs beaucoup plus larges. En revanche, elle ne fait pas de temps réel comme le drone. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Et en plus, il faut rajouter qu'un drone MAL type Reaper, si l'environnement est contesté avec des systèmes solaires, ce n'est pas performant et ça a le risque d'être détruit.
Ouais, c'est une cible facile
qu'un chasseur qui évolue plus vite, à plus de 850 km/h, est capable de ramener une photo derrière les lignes ennemies, c'est moins vulnérable, on va dire.
Ouais. Alors donc, vous avez avion spécialisé en reconnaissance, vous êtes formé à faire de la reconnaissance, vous êtes formé sur cet appareil pour ces missions-là.
Mmh. Reconnaissance et appui-feu. Donc il y a une mission secondaire de cet avion qui est de fournir un appui-feu aux troupes au sol lorsque le besoin se fait sentir. Et c'est à la lumière de ces deux besoins que j'ai été formé pilote opérationnel après à peu près 300 heures et que j'ai été déployé en opération.
Et alors, donc, ce souvenir de 2006, donc c'est, je vais le dire tout de suite, c'est en République centrafricaine. Par exemple, quand on vous envoie avec votre Mirage en RCA, on vous dit, là, vous allez faire plutôt ça ou ça ou ça, ou c'est, y a tout l'éventail des missions du Mirage F1 qui vont être sollicitées.
Alors, je ne suis pas déployé exactement en République centrafricaine, je suis déployé dans le cadre de la mission Épervier à N'Djamena, au Tchad. Alors, on sait qu'on va faire essentiellement des missions de reconnaissance dans le cadre de cette opération, de présence auprès de nos camarades tchadiens, leur apporter un soutien lorsqu'il y a un besoin, mais il s'avère que ce détachement, ce premier détachement pour moi, il se déroule dans un contexte assez particulier. C'est-à-dire que dans mon imaginaire, je m'attendais à reproduire les missions Épervier des années récentes, à savoir essentiellement de l'entraînement et de la reconnaissance. Là, il s'avère que depuis le DETAM précédent, précédent, donc depuis 2 mois globalement, un détachement de l'armée de l'air durant environ 2 mois, pour des raisons de maîtrise du volume d'heures de vol effectuées. Eh bien, on a des événements qui ont lieu dans le nord-est de la Centrafrique, du côté, si vous prenez une carte, vous regardez Boali, Bambari, dans la région des trois frontières, Tchad, Centrafrique et Soudan. Donc on a des forces spéciales qui sont déployées là-bas et il y a des actions dites cinétiques, c'est-à-dire d'ouverture du feu, que ce soit au sol, et le détachement précédent a pu également engager le feu, avec des passes canons, des canons de 30 mm qui sont qui équipaient le Mirage F1 à l'époque, voire également des munitions non guidées pour sortir nos troupes amies d'une mauvaise situation.
Ouais, donc ça chauffe.
Ça chauffe.
Quand vous arrivez, vous savez déjà que bon, il y a moyen, quoi.
Alors oui, mais je me dis pas ça comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, j'arrive, l'encre sur mon brevet de pilote opérationnel, elle est à peine sèche, j'étais pris dans un rythme, un tempo effréné où j'avais dû terminer mes qualifications, et comme il était de coutume, il faut bien matérialiser ça. Donc ça se matérialise par une première opération qui doit se dérouler de mémoire quelques semaines à peine après la fin de mes qualifications. Donc on se trouve en décembre 2016. Je sais par exemple que je vais passer les fêtes de fin d'année loin de ma famille. À l'époque, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une compagne. Et donc, je n'ai pas le temps de me préparer exactement à ce que je vais rencontrer sur le théâtre, à cette effervescence qui a commencé à poindre.
C'est-à-dire, c'est pas comme si vous étiez en France et que...
Avec une longue préparation.
Avec les camarades qui sont déjà là, vous échangez à distance. Non,
non, je suis pris dans mes qualifications et je me concentre quasi uniquement là-dessus. Et là, c'est comme si je termine Donc assez fier d'avoir terminé et d'être une fois encore utile pour la première fois. Et puis je suis dans l'avion qui m'amène à N'Djamena pour cette première opération.
Ouais, ce que j'allais dire en fait, c'est tout bête, mais vous y allez, c'est-à-dire vous prenez pas votre Mirage pour partir de France pour aller jusqu'au théâtre. Je sais pas, prenez un avion de ligne, comment est-ce que vous vous rendez là-bas?
Alors ça dépend, ça peut être le fruit d'un convoyage. Effectivement, on va se déployer avec nos propres avions. C'est des missions relativement longues, pas très intéressantes, hein, comme tout convoyage, puisque c'est de la ligne droite. Mais on ne va pas renouveler les avions à chaque rotation. Donc pour moi, c'était le cas. Je me suis déployé avec mes camarades, avec le chef de détachement et toute l'équipe en avion de ligne militaire, ceux qui sont affrétés par l'armée. À l'époque, c'était un A310 et je me retrouve dans cet avion de ligne en route vers cette première opération.
Et donc, vous récupérez l'avion d'un copain qui le lâche?
Alors, il faut voir comment ça arrive.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire, vous avez votre avion
Non, on n'a jamais... Alors ça fait partie des mythes qui sont véhiculés, que ce soit en temps de paix, enfin sur le territoire, en entraînement ou en opération, on n'a pas notre avion qui est attitré. Non. Pourquoi? Parce que les avions doivent changer de configuration, parce qu'il faut gérer le potentiel en heure de vol, donc il faut équilibrer l'utilisation de ces avions. Donc, on n'a jamais notre avion attitré. D'ailleurs, il n'y a pas un avion par pilote en opération. Voilà. Donc là, je me pose effectivement avec mon A310 à N'Djamena. Je découvre la torpeur du Tchad, puisqu'il fait... Alors même si on est en décembre, on n'est pas en saison chaude et humide, mais il fait quand même relativement lourd, sortant du froid hivernal de Paris. Et puis je découvre pour moi un nouvel environnement, avec ses saveurs, ses couleurs, quelque chose qui restera d'ailleurs gravé à jamais dans mes mémoires. Et à ce titre, j'adore... Ce théâtre-là, j'adore le Tchad, mais je digresse.
Si je ne devais pas faire de la reconnaissance et de la Puy-Feu, je viendrais bien là en vacances. Quoi.
Effectivement, pour faire notamment des trekking au nord, dans le massif de l'Inédi, le volcan Emikoussi, toutes les choses qui ont fait rêver de nombreux pilotes, en particulier des pilotes de Jaguar et de Mirage F1.
Oui, c'est ça, en plus vous passez dessus, vous dites c'est, ça a l'air joli
en bas. C'est effectivement très beau.
Et c'est dommage qu'il faille faire de la Puy-Feu.
Bon, mais on digresse, j'en suis donc au moment où j'arrive sur ce théâtre. C'était en soirée, il devait être 17h ou 18h, donc la nuit était déjà tombée. Et là, je suis tout de suite pris dans une sorte d'effervescence, puisque l'échelon précurseur, à savoir le commandant de détachement, un commandant d'escadrille et un pilote, qui était arrivé quelques jours avant, était déjà en train de planifier l'activité qui ne s'interrompt jamais lors des relèves. Et j'arrive dans le charme désuet du détachement chasse de Kosei à N'Djamena. J'ouvre la porte. Je vois là les innombrables plaques de détachement qui jonchent les murs. C'est comme si finalement tous les détachements qui étaient passés par là nous confient une part de leur prestige et nous on se dit à nous d'en être digne.
Ah ouais, à chaque fois qu'il y a un détachement, donc une équipe quoi, qui passe, à la fin vous laissez une plaque en laiton.
Effectivement, avec le nom. Et le numéro du détachement. Mais je ne vois pas que ça. Je vois également certains de mes camarades, plus expérimentés que moi à l'époque, qui sont en train de se préparer pour une mission.
Vous étiez le plus jeune de tous?
Chez les pilotes, j'étais, oui, le plus jeune.
Vous étiez le bleu, quoi.
Effectivement. Ouais. J'étais le bleu, avec tout ce que ça implique. Donc, tout à apprendre. J'avais donc en face de moi ces deux personnes plus expérimentées qui se préparaient pour une mission de nuit sous jumelle de vision nocturne. Ce n'étaient pas des Mirage F1 CR, mais des Mirage F1 CT, qui eux avaient cette capacité de nuit en plus par rapport aux Mirage F1 CR. Et à peine arrivé, j'ai encore mes bagages qui ne sont pas défaits. Je découvre tout ça, l'air avec les grands yeux écarquillés. Et j'ai mon commandant de détachement qui me fait... Est-ce que demain, tu te sens pour faire une mission de bonne heure? On n'a pas le temps de se chauffer, ça commence directement. Tous les équipages sont prêts pour faire leur mission. Est-ce que tu es prêt? Voilà, la question me paraissait, me paraissait un petit peu incongrue, puisque bien sûr j'étais prêt, j'avais été formé pour ça, et j'étais fier d'avoir obtenu, comme tout pilote, son brevet de pilote opérationnel, sa licence de pilote opérationnel. Bah évidemment, je dis oui, mon commandant, je suis prêt et hâte d'en découdre pour découvrir et voir ce qu'il en est. Et il me prévient, il me dit, mais attention, demain, tu ne vas pas ravitailler sur le classique C-135, Il y en avait un qui était déployé avec nous.
Donc rappelons ça simplement qu'il y a un gros avion, une nourrice, qui fait des ronds dans l'air, et les avions de chasse peuvent se coller à l'arrière, enfin se coller au tube, à un tube qui est à l'arrière pour faire le plein, ce qui leur permet de rester plus de temps en l'air que leur permet leur réservoir, qui est évidemment limité pour des raisons d'agilité, disons.
Exactement. Un ravitailleur est essentiel pour la projection de puissance et au fonctionnement des avions de chasse. C'est ce qui lui confère l'allonge et une certaine forme de permanence, toute relative certes, mais en tout cas l'allonge pour mener les missions qui sont confiées. Donc le ravitailleur à l'époque était le C-135 qu'on est en train de retirer progressivement au profit des MRTT Phoenix, beaucoup plus modernes, sur la base d'un A330. Donc on était habitué à s'entraîner à ravitailler sur ces avions, mais comme il y avait un grand nombre de missions simultanées, l'avion était réquisitionné pour une mission prioritaire qui était confiée à certains de mes équipes, de mes camarades plus expérimentés. Moi, je devais effectuer avec un jeune sous-chef de patrouille, c'est-à-dire quelqu'un capable d'amener un pilote opérationnel, une mission de reconnaissance, et on avait besoin quand même d'un ravitaillement. Et là, on avait une solution alternative qui était celle d'un Transal C-160, dont la mission principale est le transport aérien, logistique, essentiellement intra-théâtre à l'époque, et pour certains qui possèdent des capacités de ravitaillement en vol. Mais j'avais jamais ravitaillé sur ce type d'appareil avant d'y être confronté en opération pour cette première mission. Et ce n'est pas tout à fait la même donne, puisque compte tenu de ses caractéristiques aéronautiques, l'avion évolue beaucoup moins vite qu'un C-135 et également beaucoup moins vite qu'un Mirage F1. Donc la procédure est certes la même, mais la musique, on va dire, la chronologie, la temporalité est différente et la technicité est un petit peu également. Donc mon commandant de détachement, après m'avoir dit « Bonjour, bienvenue, demain tu pars avec un jeune sous-chef de patrouille », tu me dis « Tu te sens également de ravitailler sur un Transal ». Là c'est pareil, il n'y a qu'une seule question, une seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est « Oui, bien sûr que je suis prêt ». Mais là, je reviens à... Il y a quand même deux sentiments qui s'entremêlent.
C'est vous essayez de trouver quelqu'un qui sait comment ravitailler sur un Transat dans la base.
Et puis vraiment, je suis confronté à un entremêlement de deux sentiments. C'est vraiment l'excitation, première OPEX, dans un contexte opérationnel particulier, mais également l'appréhension. À quoi je m'attends ? Vais-je réussir à ravitailler alors que ce n'est qu'un moyen sur ce... Donc là, effectivement, je récupère mon leader qui m'explique quels sont les repères, comment ça fonctionne. On brief la mission.
Juste, c'est tout bête, mais vous êtes tout seul dans un Mirage ?
On est tout seul, effectivement.
D'accord. Donc en fait, il n'y a pas personne pour vous aider. Enfin,
c'est, exactement. On a appris...
Le type qui vole avec vous, mais c'est tout, quoi.
On a appris à voler seul, à faire notre mission seul, et forcément, on l'exécute le jour J, seul, en patrouille, certes, mais seul dans l'étroitesse du cockpit. Donc on se prépare à effectuer cette mission de reconnaissance qui devait se dérouler au sud d'Abéché, donc dans le sud-est de N'Djamena. Enfin pardon, dans le sud-est du Tchad. On brief la mission, ça se passe bien, et comme justement la préparation nous aide à effacer les éventuels effets néfastes de cet entremêlement de sentiments, ben ça se passe très bien, je passe une bonne nuit, je défais enfin mes affaires pour quand même récupérer ce dont j'ai besoin pour voler le lendemain, et je n'ai pas souvenir d'avoir passé une mauvaise nuit. Le lendemain.
J'y pense. C'est quoi ce dont. Je sais pas, vous avez dit que vous changiez d'avion, mais je sais pas, vous le décorez un peu, votre avion. Vous avez des effets personnels qui vous permettent de vous l'approprier ?
Non, rien du tout. Ce qui peut se passer, c'est éventuellement quelques petits dessins faits par les armuriers, nos mécaniciens, sur le côté, le flanc de l'avion, lorsqu'une munition est tirée, par exemple. On le voit souvent pour ceux qui aiment. Mais on n'a pas de décoration comme à l'époque, les pin-up, les.
Même à l'intérieur, est-ce qu'il y a des trucs que vous amenez, je sais pas, un objet qui vous fait. Non, il n'y a rien.
Non, alors justement, parce qu'on n'a pas son propre avion. Et qu'ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en creux, le cockpit est exigu et on doit amener beaucoup de choses. On doit amener des jumelles pour pouvoir regarder dehors avec un peu plus de précision, on va dire. On va amener toute sa documentation, les cartes. Il faut voir qu'un Mirage F1CR, ce n'est pas comme un Rafale, il n'y a rien numérisé. Donc, carte papier, checklist papier, on en met un peu partout. Sur des missions qui peuvent être relativement longues, on peut également amener un sandwich, une bouteille d'eau, tout ce qui est nécessaire à la survie en cas d'éjection. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses à amener dans le cockpit. Il n'y a vraiment pas de place pour le personnaliser, comme on peut le voir dans certains films ou dans les bombardiers B-17. Mettez les photos de leur famille, on fait pas ce genre de choses.
Bon, et donc le jour J, vous décollez enfin, après une bonne nuit, enfin au repos.
Effectivement, avec mon leader, dont il s'avère que c'était également la première mission de leader en tant que jeune sous-chef de patrouille, donc vraiment que des premières pour cette mission.
Et la mission, c'était juste de la reconnaissance d'un coin, quoi.
Voilà, on avait une mission, ramener un certain nombre de renseignements sur des objectifs préparés, mais également des objectifs d'opportunité, des zones qu'on devait scanner pour y détecter une éventuelle activité. Donc on décolle au crépuscule, dans la brume traditionnelle de la saison sèche de N'Djamena. Là encore, pour moi, premier décollage en chasseur depuis ce théâtre africain. Donc je découvre de magnifiques couleurs et puis je profite. Avant toute chose, je profite. Je me mets dans ma mission, je suis effectivement concentré. Mais comme un enfant qui découvre un nouvel environnement, bien je regarde partout. Je regarde partout, il se passe 40-45 minutes... Et là, c'est le moment de se remobiliser, puisque le ravitailleur C-160 n'est pas très loin. On va l'accrocher au radar pour faciliter l'interception et venir en position d'observation et prendre le pétrole nécessaire pour poursuivre la mission. Car aussi délicat que puisse être un ravitaillement en vol, ce n'est qu'un moyen en vue de réaliser une mission qui est bien l'alpha et l'oméga de ce qu'on attendait de moi, ce qu'on attendait de nous ce jour-là. Donc je me retrouve d'ailleurs cette masse, le C-160, qui est bien plus petit qu'un C-135, à une vitesse plus faible. Et mon leader m'avait briefé la veille en disant « c'est toi qui commenceras par prendre le pétrole ». Alors une petite anecdote amusante, il faut voir que, comme je vous l'ai dit, la vitesse est beaucoup plus faible. Et le Mirage F1, pour tenir à côté du C-160, est obligé de prendre énormément d'incidence, jouer avec les gaz, avec le régime moteur pour tenir notre position. Mais comme je vous l'ai dit, ce vieux Warbird, cet avion de prestige qui était le Mirage F1, c'était quand même un avion assez ancien. Et quand on prenait l'incidence avec du régime moteur...
L'incidence, c'est on relève le nez.
On relève le nez pour tenir à plus faible vitesse à côté de l'avion. Et ce qui fait que les alternateurs étaient beaucoup moins bien ventilés. Donc qu'est-ce qui se passait si je maintenais cette position comme ceci ? Eh bien, on pouvait avoir de la fumée en cabine. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une fumée noire qui faisait qu'on ne voyait rien du tout, mais c'était assez désagréable. Donc, on avait une procédure pour éviter que cette fumée envahisse trop la cabine et tout simplement pour ventiler les alternateurs. Donc, on évoluait autour du C-160 dans les trois dimensions, toujours à proximité, évidemment, et en maîtrisant... l'anti-abordage, mais on évoluait pour éviter que ça fume.
Il fallait bouger un peu.
Il fallait bouger un petit peu, donc c'est quelque chose de cocasse qu'on ne faisait pas, qu'on faisait pas en rafale et qu'on ne faisait pas autour d'un C-135, par exemple.
Et ça met longtemps à faire le plein ?
Alors, ça, c'était en position d'attente, mais lorsque j'arrive pour prendre le plein, non, ça ne met pas énormément de temps, puisque le C-160 offre moins de capacité de pétrole qu'un C-135. Donc de mémoire, ça a dû durer entre 5 et 7 minutes, ce qui est déjà beaucoup. Mais le plus difficile n'est pas tant de rester dans le panier, mais c'est bien plutôt de maîtriser l'approche mettre donc la perche de ravitaillement dans ce grand panier. Il faut voir que c'est comme si on prenait son manche et on doit le déplacer dans une pièce d'à peu près 1 euro. Pour toucher un autre avion à plus de 600 km/h. Donc c'est quand même pas un sport de masse, ça nécessite beaucoup d'entraînement, et là on en revient à cette appréhension qui est liée à la nouveauté. Mais ça se passe bien, j'arrive à rentrer dans le ravitailleur du premier coup et à prendre le pétrole. Alors pour l'anecdote, mon leader, qui est devenu un ami depuis, qu'il était déjà d'ailleurs à l'époque, m'a avoué à l'issue de la mission, quand tu es rentré dans le C-160, quand tu as pris ton pétrole, dans mon avion, j'ai crié un ouf de soulagement, puisque le reste allait se dérouler de manière nominale. Cette nouveauté n'en était plus une, et on pouvait poursuivre le reste de la mission.
Et alors, ensuite, ça s'est bien passé ?
Alors ensuite, eh bien, on mettait vraiment, enfin, comme pour le reste, mais on bien mis en œuvre ce que j'avais appris au quotidien, se positionner par rapport au soleil, par rapport aux angles, par rapport aux axes d'attaque prévus pour amener le meilleur enseignement possible, que ce soit sur des prises de vue verticales ou des prises de vue obliques, et ramener le film, puisqu'on l'a dit, c'est de l'argentique, à la maison, à N'Djamena, pour qu'il puisse être débriefé et qu'on puisse exploiter leur enseignement en vue d'orienter la manœuvre future, qu'elle soit purement aéro ou interarmée.
Et donc sur cette première mission, vous n'avez pas eu de surprise, rien ?
Non, aucune surprise, ça s'est déroulé d'une manière nominale.
Mais alors du coup, ça, quand on est sur une première mission comme ça, mais qu'il n'y a pas de surprise, est-ce qu'il y a un moment quand même où on rebascule en pilote automatique entraînement ? Ou est-ce que c'est toujours quand même l'excitation de la première fois de « Ah, c'est pour de vrai ?» Ou est-ce qu'il y a un moment où on fait « Bon, bah, c'est comme un entraînement, quoi. »
Non, alors, les sentiments qu'on a avant, toute première fois, ils disparaissent dès qu'on ferme la verrière de son cockpit. Parce que justement, on a tellement été mécanisé, on s'est tellement entraîné durement qu'une fois que son cockpit, que sa verrière est fermée, qu'on est seul dans son cockpit, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc cette préparation, c'est là où elle a tout son intérêt. Alors évidemment, tout n'est pas planification. On le sait depuis De Gaulle, la chose militaire est avant tout liée à la contingence, donc on doit être en mesure de s'adapter. Et finalement, c'est ça, être en mesure de reproduire tout ce qui est mécanisation et préparation opérationnelle sur long terme, tout en s'adaptant aux circonstances nouvellement créées et de manière continue.
Et donc vous ramenez du renseignement, vous ramenez vos péloches, quoi.
Exactement.
Et après, vous les regardez, vous, les péloches ?
C'est une excellente question.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui exploitent le renseignement et c'est pas vous ? Ou est-ce que quand même vous regardez, vous dites « ça, c'était comme ça à ce moment-là » ?
Alors, c'est une excellente question, puisque la mission ne s'arrête pas à l'exécution. Systématiquement, il y a au moins trois phases dans une mission. La préparation et le briefing, au sol, en amont, l'exécution, évidemment, et le débriefing. Une mission n'est jamais terminée avant que le débriefing soit complet. Donc pour nous, à l'époque, pilotes de reconnaissance, le débriefing, il y avait une partie où on devait aller débriefer, enfin observer le film avec des mécaniciens photos. Donc à l'ancienne, la petite loupe, on défilait le négatif et on regardait à telle heure j'ai vu tel truc, et puis on regardait que c'était tel équipement, pardon, et on vérifiait avec l'interprétateur image de la pertinence du renseignement et du fait qu'on avait bien ramené.
Ouais, parce qu'en plus, il y a la mémoire, quoi. Il y a le truc de vous souvenez de ce que vous. Parce que les pilotes de chasse ont une bonne vue, hein, en général, enfin, c'est proverbial, mais vous souvenez ça, j'ai vu ça à ce moment-là. Et ensuite, il faut le connecter à la preuve photo, quoi.
Il faut toujours corréler ce qu'on a vu aux renseignements, on va dire, tangibles qu'on ramène sur le film.
Très bien. Merci beaucoup, Colonel Davina.